Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle saison de Sugar Free. Je suis toujours Areski Sugar, stand-upper et podcaster, mais plus dentiste. Je ne suis plus dentiste depuis très récemment. Et voilà, c'était une des grosses news que j'ai à vous annoncer dans cette intro. On en parlera, je pense, plus amplement dans un épisode solo que je vais bientôt enregistrer en direct de mon canapé. Et c'est intéressant du coup que je reçoive aujourd'hui Alice Nieto-Mazet qui est notamment coach en développement professionnel. Et on a beaucoup parlé de reconversion professionnelle. Voilà, avec moi qui ai abandonné la dentisterie. Je pense que la dentisterie va... Je vais manquer, je pense, à la dentisterie puisqu'elle va me manquer. Je repensais également à cet épisode que j'avais enregistré avec Samy Atiwi qui lui aussi... a changé de métier et qui a créé une app qui permet de faciliter la reconversion professionnelle. Et du coup, je pensais à Samy et Alice et en me disant, c'est marrant comme je pense que j'étais attiré déjà vers ces personnes qui déjà ont fait ce pas de changer de métier, mais qui en plus ont une approche méta un peu, c'est-à-dire que tu vois, ils aident d'autres personnes à le faire, mais en ayant analysé un peu ce qui leur a permis de faire ça. Et au final, je l'ai fait. Et d'ailleurs, seconde news importante, et presque, voilà, la news à retenir de ces 10 dernières années, c'est que je vais rejouer mon spectacle. En fait, c'est plutôt un nouveau spectacle, la vérité. Donc, c'est mon deuxième spectacle qui sera... à la Petite Loge dès le mercredi 10 novembre à 21h30. Prenez vos places, je vais mettre le lien de la Petite Loge en description. L'affiche et la billetterie seront open dès le 15 octobre, mais le lien est là, donc on se le garde en tête et on marque sur son Google Agenda déjà que vous êtes pris déjà dès le 10 novembre. La Petite Loge, c'est le plus petit théâtre de Paris, donc c'est possible que ce soit vite complet. Mais en même temps, je vous dis ça, mais j'ai pas envie que vous le sachiez, ça, d'accord ? Vous prenez des places, tout le temps, d'accord ? Même ne venez pas, si vous voulez, ne venez pas, mais achetez vos places. Comme ça, au moins, voilà, c'est la thune qui est le plus important, clairement, pour moi. Mais voilà, ça va être cool, venez. Ah oui, putain, mais c'est vrai que j'ai d'autres news encore, et ce... qui ont une télé, parce qu'il semblerait que ça existe encore, des gens qui regardent la télé. Je passerai le vendredi 29 octobre sur France 4 dans l'émission Panam Comedy Club pour faire un sketch, quoi, du stand-up. Et vous allez me voir. Et là, par contre... Bon, là, de toute façon, je vais ressortir un épisode avant le 29 octobre. Mais attention, là, je veux qu'il y ait une story par personne... devant la télé et vous me taguez moi et vous taguez aussi le Panam Art Café et vous taguez France Télévisions et vous taguez Lou, taguez Jerry Seinfeld aussi, on sait pas voilà, ça peut intéresser du monde quand je passerai, d'accord, donc on prend une belle photo où je fais pas une tête dégueulasse quand je serai à la télé et c'est un big deal quand même d'être à la télé pour faire du stand-up. Enfin, je crois, j'ai du mal, moi, à réaliser les avancées dans ma vie professionnelle. Je suis toujours à me dire, ouais, mais c'est pas assez, j'ai pas rempli le Madison Square Garden, etc. Bon, remplissons déjà la Petite Loge, encore une fois. On va commencer chill, parce que ça va être un mercredi sur deux, d'abord en novembre et décembre, à partir du 10 novembre. à 21h30. Venez nombreux. Et ensuite, on sera plus régulier. Quoi vous dire d'autre? Je pense que je vous ai donné les plus grosses news là, de ma vie. Je suis plus dentiste. Je fais un second spectacle à Paris. Je passe à la télé. Les podcasts vont reprendre de ouf. N'oubliez pas de vous abonner à mes autres podcasts. Dernier podcast avant la fin du monde avec Kenny Vago et Renaud Sanviti, mais également Zouzou Club, qui est un podcast purement vidéo sur YouTube avec Audrey Jésus. Et bisous à tous. Profitez bien de cet épisode et suivez Alice Nietomazet, qui est une personne très intéressante et très intelligente. Voilà. Bisous à tous, à très très vite. C'est le truc de... Attends, la petite, ça m'a rappelé un truc de... C'est pas le genre de l'électro, j'en sais rien, là. C'est pas un truc comme ça?
Tout à fait, c'est ça.
Mais c'est quoi, du coup? C'est un endroit ou c'est une, un collectif, tu sais?
C'est un collectif, tu sais. La petite, c'est une association culturelle et féministe.
Ok.
À Toulouse, qui existe depuis 17 ans. Et du coup, c'est une association qui milite pour l'égalité des genres dans les arts et la culture.
Ah, mais je ne savais pas du tout que c'était ça leur,
ouais.
Leur pitch, en fait.
Si. Et en fait, du coup, on est organisé, on a deux pôles. Un premier pôle qui est le pôle artistique. Et donc, c'est ça que tu connais. L'organisation, on organise des soirées Girls Don't Cry, donc des GDC parties.
OK.
On a aussi un média en ligne, Girls Don't Cry. Et là, l'idée, c'est de promouvoir des artistes minorisés de genre.
Tu fais quoi, toi, dans ça?
Alors, moi, je ne m'occupe pas de ce pôle-là, même si j'aide l'organisation des soirées. On a fait, par exemple, une soirée mercredi soir à l'ISDAT, tu sais, les ouais. Beaux-Arts à Toulouse.
Ouais.
On a organisé donc une soirée électro avec deux artistes, Awa Sarita et Shiri B. Diamond. Non, par contre, du coup, ouais, pour répondre à ta question, moi, je suis en charge du second pôle qui est formation et accompagnement des personnes minorisées de genre qui travaillent dans les arts et la culture et des structures culturelles aussi qui veulent changer leurs pratiques pour davantage d'égalité.
Ouais.
Et j'interviens aussi en tant que formatrice.
Ok. Parce que c'est ça, on est d'accord, ton nouveau job, en fait, c'est ça.
En fait, j'ai deux nouveaux jobs. Celui-là, celui-ci à la petite, c'est le principal.
Ok.
Et après, j'en ai un second, on the side, qui est le coaching.
Ok. Parce que on est d'accord, tu bossais chez Airbus, non? Ou un sous-traitant d'Airbus avant? Ou quelque chose comme ça, non? C'était plus,
je sais plus. Oui.
Tu sens la meuf qui a encore pas processé son burn-out. De...
Oui, je bossais pour un sous-traitant d'Airbus. Ouais, je bossais pour une ESN. Une boîte IT qui avait développé un pôle consulting.
Ouais.
Et on faisait du conseil pour différents clients dans différents secteurs d'activité. Ici à Toulouse, l'aéronautique, principalement, oui. Et quasi exclusivement. Du conseil, comme je t'ai dit, sur différents secteurs, différents métiers également. Et moi, je faisais plutôt du conseil en gestion de projet RH.
Okay.
Sur des projets de promotion des diversités, accompagnement au changement. Change management.
Ah, donc tu étais quand même déjà un peu dans le même game, un peu, non?
Alors, je dirais que j'étais dans des games complètement différents, radicalement opposés. Oui, en fait, j'essayais d'avoir le plus possible de missions, en tout cas pour les départements Inclusion and Diversity.
Oui, en fait, ouais, c'est sur ces sujets, quoi. De le faire. Mais en gros, c'était difficile de le faire, c'est ça?
C'était difficile de le faire aussi. Quand on a un seul client qui est Airbus, c'est déjà bien, mais ils ont un seul département, en fait, diversité ouais. Et inclusion. Donc, il y a très peu de personnes. Enfin, en tout cas, c'est...
Ouais, en gros, est-ce que c'est un peu le truc de toutes les grosses entreprises? Genre, il faut avoir ce département inclusivité, inclusion, etc. Mmh. Mais en fait, ça ne va pas changer comment on fait les choses. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est plus cosmétique ou est-ce que ils essayaient de quand même d'aller dans ton sens si tu proposais des choses ou des choses comme ça?
Moi, je pense que les gens qui travaillent, les gens, la personne, donc là, en l'occurrence, c'était Jane Besson, à l'époque, qui a créé le grand département Culture Change pour changer profondément la culture d'Airbus. Je pense qu'elle, c'était des convictions profondes et incarnées. Et je pense que les gens qui travaillent dans ces départements-là sont vraiment des personnes convaincues qui proposent très concrètement, en fait, des méthodes et des outils pour plus de diversité et d'inclusion. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant dans le sens où Jane Besson avait vu juste en créant un département Culture Change, parce que c'est toute la culture qu'il faut changer. Ouais. Et en fait, c'est toute la culture d'un système. Donc en vrai, c'est pas en réformant, c'est en révolutionnant que les choses changent vraiment. Et ça, c'est un parti pris méga radical.
Oui, oui. Mais c'était quoi le truc le plus frappant, genre que vous arriviez même pas à, je sais pas, tu te trouvais devant un mur, quoi, pour faire changer quelque chose?
Le premier truc qui est, voilà, la discrimination positive. Affirmative action. Donc, peut-être qu'on aurait dû le traduire en français comme affirmation positive. Je ne sais pas, un truc plus positif, parce que le terme de discrimination, c'est trop péjoratif. Le département avait proposé à tous les managers, et donc c'était communiqué, quand vous recrutez dans votre équipe, que ce soit en interne ou en externe, vous avez plusieurs candidats. Généralement, il y a moins de filles, enfin, surtout sur des profils d'ingénieurs. À parcours, enfin compétences égales, prenez la meuf. Ben ça passait tellement mal.
Ouais.
Il y avait beaucoup de managers qui étaient là, ben oui, en fait, je suis hyper convaincue, c'est la seule solution, en fait, qu'on a. Et puis, il y en avait d'autres qui, pour lesquels ça passait pas du tout. C'est juste un moyen, c'est pas une finalité. Mais pour l'instant, c'est un des seuls moyens qu'on a trouvé pour qu'il y en ait davantage. Parce que si on ne fait rien, en fait, il se passe rien.
Oui, il se passera rien et rien ne va changer, quoi.
Les gens recrutent des gens qui sont exactement comme eux et qui leur ressemblent, tu vois, généralement. Bien sûr. Vraiment. Donc, il y avait ça. Ensuite, deuxièmement, je pense aussi que tous les gens qui travaillent sur des sujets de culture change ont aussi réalisé qu'en fait, de ce qu'ils appelaient eux, parce que c'est un environnement international, c'est pour ça qu'il y a plein de mots en anglais, je fais pas genre, ce qu'ils appelaient...
De toute façon, je parle tellement franglais dans ce podcast, je pense que tout le monde...
Très bien, parce que moi, dans l'associatif, je me fais vraiment bâcher.
Ah ouais?
Ben oui, ben, ça fait très pseudo-business, tu vois, de mettre des mots en anglais, quoi.
Bah, en même temps, le problème, c'est que tu vois, toutes les choses de progrès sociaux comme ça, ou de théorisation, ça vient des États-Unis, ou en tout cas de trucs anglo-saxons.
Merci, ça me fait un argument de plus.
Et le temps que ça arrive dans une discussion en France, et la discussion qui finit pas par « Oh là là, mais laissez-nous tranquilles !» Du coup, de trouver une traduction, c'est vraiment l'étape d'après, quoi.
J'allais prononcer le mot de gender diversity, diversité des genres.
Ouais.
Eh bien, en fait, juste aborder cette question de gender diversity, déjà, c'est insuffisant. Les personnes qui bossaient et qui travaillent, en fait, dans n'importe quelle structure pour plus d'inclusion, ont bien capté qu'en fait, il ne suffisait pas qu'il y ait trois meufs au COMEX ou qu'il y ait des femmes dans un comité de direction ou même des femmes managers. Ce qu'il faut, et c'est là que tout le système doit changer, c'est qu'en fait, il faut plus de diversité de profils de personnes, en fait.
Ouais.
Pas qu'en en termes de genre, il faut aussi des personnes racisées, il faut des personnes, plein de personnes, en fait, qui sont minorisées dans le champ social. Et ça, c'est encore plus compliqué, en fait. Parce que finalement, mettre de la diversité de genre, dans le sens femme cisgenre, dans un comité de direction, ok. Mais est-ce qu'il y a une vraie diversité d'âge ou est-ce que juste vous êtes tous et une diversité aussi sociale?
De milieux socio-économiques.
Mais
oui,
ça, c'est même le truc le plus important qui est vraiment la diversité de milieux sociaux.
Parce qu'à la limite, si tu veux vendre la diversité, spécialement par exemple un truc de technologie comme Airbus ou quelque chose comme ça, tu pourrais te dire, bah, en fait, il nous faut des cerveaux qui pensent différemment. Et en fait, effectivement... si tu finis par avoir juste les mêmes personnes, alors certes de genres différents, mais qui sortent exactement de la même école, qui ont fait les mêmes trucs.
Mais c'est ça, en fait, parce que c'est vraiment... Après, ça, c'est pas que dans l'aéronautique, hein, c'est on le retrouve dans plein de secteurs d'activité différents. En fait, c'est des milieux, c'est de l'entre-soi. Donc, des gens ont fait des grandes écoles et ensuite, ils recrutent leurs copains.
Ouais.
Donc, c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles, les mêmes promos, qui viennent parfois des mêmes milieux sociaux, avec les mêmes cultures, en fait, même héritage, même pote. Enfin, parfois, ils se sont mariés avec la cousine d'un pote. Enfin, c'est vraiment du vrai entre-soi.
Ouais.
Mais qu'on n'appelle pas comme ça, qu'on n'identifie pas. Chez les pauvres, on appelle ça du communautarisme. Chez les riches, on dit rien. Ça s'appelle pas.
ça oui, ça s'appelle pas du tout.
Et je pense qu'en fait, l'enjeu, il est là.
C'est marrant que ça s'appelle pas et qu'en fait, personne n'en parle et que c'est juste toi, quand tu commences à gratter, tu fais genre, ah mais en fait, vous connaissez tous, en fait, depuis... Le lycée, tu vois, c'est même pas depuis l'école.
C'est ça, c'est depuis le lycée.
Tu vois leurs photos, leurs rallyes, tu sais.
Voilà.
Ouais, et par contre, s'il y a trois Arabes qui se décident de se mettre ensemble pour créer une franchise, là, ça devient un communautarisme.
Absolument.
C'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu sors d'Airbus pour faire... pour promouvoir un petit peu aussi la diversité, en tout cas accompagnée de deux entreprises.
J'étais salariée d'un partenaire, en fait, d'un sous-traitant d'une boîte de consulting. Et je suis partie et j'ai eu plusieurs clients, notamment un que j'adorais, Gary, qui m'a dit « Dépêche-toi de partir avant d'être trop bien payée, puisque moi, je suis trop bien payée et que je ne pars plus.
» Ouais.
Et du coup, je n'étais pas salariée chez Airbus. Je pense que c'est peut-être un peu plus dur. Enfin, moi, en tout cas, j'admire davantage les gens qui partent de chez Airbus parce que c'est quand même financièrement, dans les conditions financières et sociales, là, tout ce qui est compensation and benefits, très avantageux, d'autant plus en Occitanie ici. Le premier confinement a fait déclic chez pas mal de personnes et je comprends vraiment. Moi, ça ne m'a pas fait un déclic, mais ça a accéléré, en fait.
Ouais. Et c'était quand le moment où tu as dit, bon, c'est quoi ? En fait, stop.
J'étais tiraillée entre deux choses. J'étais tiraillée, mais ça, c'est lié à ma personnalité, entre soit je vais faire la même chose ailleurs et du coup, je prends un gros gap de salaire et j'ai plus de thunes. Soit je vais dans un chemin totalement différent et je cherche plutôt à travailler en alignement avec mes valeurs et à ce qui est lié à ma mission, en gros. Donc, ça fait peut-être un peu pompeux, mais moi, je pense que chacun et chacune sur Terre a une sorte de mission et que si on peut la réaliser au quotidien grâce à son taf, tant mieux.
Mmh.
Ça ne doit pas être une injonction non plus. Hein. On peut la réaliser d'autres façons. Et du coup, pour moi, ma mission... c'est d'agir pour une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus libre. Et enfin, c'est une mission complètement collective. Hein. Moi, j'amène juste une pierre complètement infime. Je me dis, parce qu'en m'écoutant, je me dis, bon, les gens vont se dire, elle a
Alice qui est en mode, je vais régler le problème. Asseyez-vous tous, je vais...
Donc non, c'est un truc complètement collectif. Mais si je peux apporter ma maigre contribution... là-dessus, je tenterai de le faire vraiment avec corps et âme.
En plus, c'est que collectif et c'est que en essayant de faire quelque chose chacun, en fait. C'est vrai que...
Ouais.
Non, t'inquiète pas, tu ne passes pas pour quelqu'un.
J'ai pris mon temps parce que je me méfie aussi de cette nouvelle tendance. Du coup, je pense que t'es vraiment mort de rire aussi, mais je me méfie de cette nouvelle tendance qui est l'injonction à tout quitter et quitter toute sa vie pour aller élever des chèvres dans le Périgord, tu vois. Tous les gens qui sont en mode, mon travail manque complètement de sens. Et aujourd'hui, il y a quand même, je trouve, beaucoup de pression sur les gens. Et il y a cette injonction à avoir un travail vraiment qui a du sens et à prendre des décisions du genre quitter tout ce mouvement-là. Je quitte la défense pour aller m'installer et élever des moutons. Je suis prudente aussi là-dessus. Et d'ailleurs, les gens que j'accompagne, je les encourage là-dessus à être très prudents aussi, en fait. Il y a quand même...
Ouais.
Voilà. plein de choses à checker, à vérifier, et il ne faut pas faire les choses. Enfin, moi, à mon avis, j'aime pas dire il ne faut pas. En tout cas, moi, pour ma part, je n'avais pas envie de juste démissionner, dire au revoir et après voir ce qui se passait.
Ouais.
Donc, ça a pris du temps. Et en fait, j'étais en veille. Je discutais avec les gens, j'étais en veille pour trouver en fait la structure dans laquelle j'allais pouvoir agir pour plus d'égalité et pour plus d'inclusion. Et du coup, je cherchais, c'est vrai, plutôt du côté de l'économie sociale et solidaire ou même des associations. Après, je pense qu'il y a aussi des boîtes qui sont très axées à l'entrepreneuriat social qui peuvent aussi, qui agissent aussi là-dessus. Mais voilà ce que je cherchais.
Et du coup, tu as trouvé la petite, c'est ça ?
Ouais, j'ai trouvé. Et ça a été la première fois, vraiment, je pensais que ça n'existait pas, première fois vraiment de ma vie où je suis tombée sur l'annonce, j'ai regardé et là je me suis dit, ok, ben en fait, c'est exactement pour moi.
D'accord.
Autant le collectif, l'ambition et la mission en fait du collectif, la façon de travailler, les valeurs et le féminisme qu'on partage et du coup le job, les activités et les missions.
Donc là, tout s'alignait parfaitement.
Tout s'alignait. Parfaitement, ouais. J'étais hyper contente. Il n'y avait que le salaire qui dysfonctionnait, mais ça, c'est le secteur associatif.
Ouais.
Du coup, je me suis dit, en fait, je vais juste les rencontrer pour voir ce qu'elles font.
Au final, ton taf de coaching, oui. Donc d'accompagnement professionnel, en fait, quelque ouais. part, ou même de reconversion, c'est ça
mm-hmm.
À quel moment tu t'es dit, tiens, en fait, ce que j'ai vécu, je vais aider d'autres gens à le faire, en fait.
En avril 2018.
Ah ouais. Non, mais parce que c'est marrant, parce que, attends, avril 2018, ça veut dire que tu voulais faire ça avant même que tu l'aies fait toi-même, en fait, quelque part.
Non, parce qu'en fait, j'étais sur une mission que je trouvais dans les activités et dans les tâches qui étaient très abrutissantes, je trouvais. Je commençais à vraiment être en souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, mais j'avais pas réalisé hein, que je faisais en sorte d'aller déjeuner dans ma voiture, tu vois, une heure entre midi et deux sur la pause déj. Enfin, tu vois, je m'isolais. J'avais tout le temps hyper mal à l'estomac. J'avais des sueurs nocturnes. Et en fait, mon médecin qui est hyper cool m'a dit, en fait, vous souffrez de troubles. Je ne sais plus quel était le terme exact. Anxio-dépressif au travail, un truc comme ça.
Ouais.
Et donc, il avait souhaité m'arrêter, je ne voulais pas. Et il m'a convaincue, il m'a arrêté 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, en fait, j'ai commencé un coaching.
Ok.
Je faisais déjà une analyse. Et la psychanalyse, je trouve ça, pour en reparler, fascinant sur pas mal de choses. Mais je n'avais pas de clé de réponse sur OK dans mon quotidien. Et demain, en fait, je fais quoi dans ma vie ?
Ouais.
Et en fait, j'ai commencé un coaching avec une coach qui m'a accompagnée. Et en fait, en coaching, tu travailles sur un objectif.
Que tu formules toi-même
ouais.
déjà au ouais. départ. Et toi, c'était quoi à ce moment-là ?
Moi, c'était que faire de ma life ?
Ouais.
Que faire de ma vie professionnellement ? Donc ça, c'est un objectif très large et
ah oui, c'est clair.
Pas smart.
Vaste programme, ouais.
Et après, ça a été, qu'est-ce que je peux faire à court terme et à moyen terme pour aller bien au travail et pour avoir plus de sens au travail. Donc, au départ, je me suis dit, OK, peut-être que je peux mettre du sens dans ce travail-là. Et ensuite, petit à petit, et donc, j'ai tenté, quoi, tu vois,
ouais.
d'en mettre. Et j'ai négocié notamment, ensuite, une formation de coaching avec mon boss qui a accepté. Donc, c'est mon ancienne oui. boîte qui m'a payé, en fait, la formation professionnelle de coaching.
Genre, c'est quoi le profil des personnes, du coup, qui te sollicitent ?
Ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'en formation de coaching, on nous avait dit vos coachés viendront toujours vous chercher sur certains sujets, quoi. Sur des sujets, en fait, que vous avez traversés ou que vous n'avez pas totalement résolus. Et ça, c'est assez juste. Mais je dirais aussi qu'en fait, on attire souvent des personnes qui ont quand même un profil similaire au nôtre. Ouais. Moi, je ne ferais jamais du coaching de grands chefs d'entreprise, par exemple, puisque je pense qu'ils me trouveraient relativement
trop de gauche.
Impertinente et trop de gauche. Ça, c'est sûr. Donc, je ne ferai pas des séances de coaching à 200€ l'heure pour des chefs d'entreprise, ça, c'est certain. Ouais. Plutôt, les personnes qui viennent vers moi, ce sont plutôt des femmes cisgenres, âgées de entre, je dirais, 25 et 40 ans, max.
Ouais.
Et les problématiques récurrentes, c'est soit j'adore mon métier, mais l'environnement dans lequel je elles n'arrivent pas en disant ça, mais en gros, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut identifier, c'est soit j'adore mon métier, mais l'environnement dans lequel je suis ne me va plus du tout.
Ouais.
Soit le job que j'ai en ce moment, c'est pas ce que je veux faire. Ouais. Soit je sais pas dire non, ou quand je dis non, je le dis mal, je me justifie, je culpabilise, et du coup je suis complètement mais envahie. Donc il y a un travail de poser pour poser ses limites. Il y a beaucoup ça chez les femmes. Soit il y a aussi pas mal de personnes en fait qui veulent avoir aussi une activité, qui veulent développer une activité professionnelle à leur compte ou même un projet collectif mais en dehors de leur travail principal.
Et ça, comment gérer ça avec les horaires de leur taf classique, etc. quoi.
Oui, alors il n'y a pas qu'un truc d'horaire, ça serait plutôt simple, mais oui, si c'était que juste.
Alors, tu ouvres Google Agenda.
Voilà.
Non, mais j'aime bien parce que les trois premiers trucs que tu me disais en fonction des profils, en fait, c'est que de l'affirmation de soi, en fait. C'est-à-dire, tu vois, pouvoir dire aux gens, l'ambiance là qui s'est créée ne va plus. Pouvoir dire non, c'est pareil. Et au final, pouvoir aussi affirmer et dire, en fait, ce taf que je suis en train de faire, c'est pas bien, quoi. Mais en même temps, dans tous les cas, le fait que ces personnes t'aient sollicité, c'est que c'est la première étape, justement, de dire, non, stop. En tout cas, changeons quelque chose.
Oui, tout à fait. Alors, sur le premier truc, par contre, c'est là où j'aimerais un peu développer, c'est que c'est même pas que l'ambiance au travail. Et ça rejoint vraiment le sujet avec lequel on a commencé sur le changement de culture. C'est vraiment pas clair bien, c'est vraiment de la culture. On a, je vais le dire de manière, je vais méga vulgariser, donc je vais pas être extrêmement juste, je vais faire une grande généralité, mais en fait, la manière dont on travaille, le monde du travail a été principalement, en tout cas aujourd'hui en France, créé par des hommes cisgenres, blanc, hétérosexuel, qui ont aujourd'hui, beaucoup sont à la retraite, mais en tout cas qui ont un certain âge. Et du coup, il y a trop peu de place, en fait, pour toutes les personnes qui ne ressemblent pas à ces hommes-là. Mais vraiment. Et donc, en fait, les gens essaient de s'adapter, mais à des niveaux très différents. Même les filles qui sortent d'école de commerce, en fait, elles essaient juste de s'adapter. Et le premier truc, c'est vraiment... En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment des changements de culture. Et ça passe par ça passe en premier lieu, à mon sens, par revoir la charge de travail. Parce que, en fait, tout le monde est tout le temps surchargé. Et quand il y a trop de charge de travail, c'est tout, quoi. T'as plus le temps pour d'autres sujets, t'as plus le temps pour le reste. Il y a trop de charge de travail. Philosophiquement aussi et idéologiquement, on peut parler de la semaine de travail de 5 jours minimum également. Et ce qui se passe en tout cas aussi pour les femmes cis, c'est pour celles qui font le choix de la maternité, qui est l'arrivée en fait de leur premier enfant. Et là, en fait, ce qui se passe, moi, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et pourtant, on en parle depuis 30 ans et on n'en parle pas assez. C'est que là, c'est catastrophique, quoi. Vraiment. Enfin, j'ai peut-être un discours hyper fataliste, mais c'est terrible. Parce que là, les injustices, elles se creusent vraiment à ce moment-là. Elles se creusent. Pour moi, les injustices, elles sont au moment du recrutement, dans la manière dont on va travailler, dans l'ambiance de travail, comme tu l'as dit, le sexisme ordinaire, le racisme ordinaire, l'homophobie ordinaire. Et ensuite, pour les gens qui font, et pour du coup les femmes cis principalement qui font le choix de la maternité, là, là c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que voilà, c'est lié au patriarcat. Les hommes ont, enfin, pour celles qui sont hétéros et en couple avec un mec cis, ben là, eux, ils retournent direct au taf au bout de, ouais, ouais. de 2 semaines. Et là, là c'est le moment où vraiment. ça dysfonctionne beaucoup.
Ouais. Mais c'est marrant, oui, c'est comme tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, on oblige les gens à avoir les préoccupations des hommes qui ont créé ces entreprises, genre dans les années 70. C'est-à-dire qu'en gros,
absolument.
Il faut que tu penses comme. En fait, il faut que tu penses comme OSS 117. Tu vois ce que je veux dire ? Vu que c'est OSS 117 qui a créé l'entreprise. Du coup, lui, effectivement, bah, quand c'est toujours les femmes des employés, c'est parce que ce n'est pas les employés, c'est les femmes des employés qui étaient enceintes. Du coup, bien sûr, l'employé il revient au taf. Et c'est marrant parce que même si tu restes genre, juste chez les hommes, il y a ce côté, comme tu disais, genre, bah, pas de congé, paternité, etc. Alors que maintenant, il y a quand même eu un petit shift au moins. Qui s'aperçoit dans la culture générale où tu te dis, bah non, en fait, il y a des gens, ils se disent, bah non, je vais rester avec mon bébé, tu vois.
Bah ouais.
Mais même aussi. Ça, du coup, non, tu peux pas changer quoi que ce soit parce que le taf, c'est ce qui te donne à nourrir et non, c'est ça qui détermine comment tu vas penser ou pas.
Mais là où il a été malin au SS 117, c'est qu'il a pas dit, je crée le monde du travail en France aujourd'hui.
En fonction de
en
moi.
En fonction de mon image.
Oui, oui,
il
ça
a dit,
s'est fait naturel. Ouais.
Je crée. Le monde du travail dans les années 70 à l'image d'un être universel.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et ça du se coup, fait toujours, c'est, voilà, exemple. C'est ça. Ouais. C'est, bah oui, c'est exactement ça.
On en revient au truc du il n'y a pas de communautarisme chez les riches blancs.
Ouais, c'est ça.
C'est le truc, c'est la norme. Du coup, forcément, tout ce qui dévie de ça, c'est plus normal. Et c'est ça le pire dans une entreprise, c'est que dès que c'est pas normal, c'est moins productif.
Ouais,
du coup, non.
C'est ça.
Du coup, ça ne fonctionnera pas. Alors qu'en vrai, en plus, le pire, moi, c'est ce qui m'énerve le plus, je crois, dans toutes ces discussions. C'est-à-dire que c'est faux. Même si tu es un capitaliste pur et que tu regardes juste la productivité, et le taux horaire ou ce que tu veux, c'est mieux d'avoir genre même des moments de sieste, d'avoir des congés paternité et compagnie. Des gens heureux comme employés feront que ton entreprise va beaucoup plus être boostée. Mais alors, comment on fait péter ça?
Ben, on fait une révolution. Alors, peut-être qu'on lui donne un autre mot pour les gens qui sont plus frileux. Ouais. Ben, comment on fait péter ça? Ben, déjà, mon avis, là, c'est vraiment... Je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est un travail collectif de toutes les personnes qui se sentent très mal dans les systèmes dominants des structures. Ouais. Ouais, j'ai l'impression de parler de mon rêve et qu'ils s'unissent. Qu'ils s'unissent.
Attends,
en fait.
Je vais mettre l'armée rouge derrière.
Et oui, parce qu'en fait, je pense qu'en plus, pour moi, le premier step, c'est combattre l'illusion de l'égalité, c'est faire prendre conscience à tout le monde que OSS 117. Cet universalisme, en fait, c'est juste du masculin blanc neutre, entre guillemets, tu vois. Donc, en fait, c'est juste le produit d'une construction culturelle, sociale et historique. Donc, déjà, je pense que le premier truc, c'est de remettre en question cette illusion de l'égalité. Et après, un second truc, pour moi, c'est... c'est des questions tout le temps de rapport de pouvoir et de domination. Donc, en fait, c'est extrêmement basique la manière dont je vais le dire. Et c'est pour ça que le comment et les modalités, elles sont à trouver collectivement. Mais en soi, il y a des gens qui ont du pouvoir, il y a des gens qui n'en ont pas. Eh bien, soit les gens qui ont du pouvoir en laissent pour les autres, qui n'en ont pas, soit les personnes qui n'en ont pas en prennent davantage. C'est juste là, j'invente rien, quoi. idéologiquement, je vois pas d'autre chose, quoi. Donc pour moi, en fait, il faudrait partager davantage l'exercice du pouvoir. Donc ça va, pour moi, les sujets de d'inclusion, d'inclusivité, vont de pair avec les sujets de changement radical d'une culture d'entreprise, changement radical, en fait, du management, de la manière dont on manage les personnes, de la manière dont on fait confiance aux personnes aussi pour se manager elles-mêmes. Et donc, ça va de pair pour moi avec des nouvelles façons de travailler, de collaborer ensemble.
Ouais, je pense que dans toutes les entreprises, et du coup, les grosses entreprises, je crois que j'ai pas la stat, mais je crois que la plupart des Français bossent pour, au final, des grosses entreprises. Est-ce que aussi, tu vois, l'autre moyen, au final, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire qu'en fait, si tu vois, t'accompagnes des personnes qui créent leur propre entreprise, peut-être, que ce soit auto-entreprise ou pas, c'est toi-même, quand tu crées une entreprise, ne pas faire à tes employés ce que tu as évité justement ailleurs. Et du coup, au final, c'est d'avoir presque des espèces de nouvelles entreprises avec un nouveau système qui est plus égalitaire et plus humain, au final, tu vois, pour pouvoir dire, ben non, regardez, ça fonctionne.
Je pense que juste se mettre à son compte et faire ce qu'on veut, il y a plein de choses qui sont quand même liées à la sécurité et à des droits des salariés, qui sont quand même très, qui sont quand même le résultat de luttes sociales assez déterminantes en France que tu as pas. Je pense que ça serait intéressant en fait qu'on se pose aussi la question de comment on peut créer des collectifs. Est-ce que par exemple dans un domaine d'activité, un secteur d'activité ou un métier en fait, genre on a tous et toutes un métier commun. Par exemple, j'en sais rien, je vais dire au hasard, je suis graphiste, j'étais salariée, on me donnait que des trucs hyper chiants à faire, des logos pour Lidl, des trucs comme ça, j'en ai marre, j'ai envie de me mettre à mon compte et d'avoir des projets plus intéressants, mais en même temps, à mon compte, ça peut hyper bien fonctionner, mais en même temps, j'ai quand même besoin de collectif et de travailler avec d'autres personnes, comment je crée un réseau ou comment je crée, tu vois, en fait, un collectif où on soit tous et toutes à notre compte, ou bien on crée une association, ou bien on crée une entreprise, ou bien on peut créer aussi une coopérative. Et je pense qu'en fait, il y a plein de modèles à trouver, de savoir est-ce que j'ai envie d'être seule ou est-ce que c'est important que je sois en réseau, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui souffrent vraiment en étant à leur compte de solitude et d'isolement. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à regarder du côté de qu'est-ce qu'on peut faire en collectif et en réseau. Et puis, pour moi, toute la question derrière et l'enjeu derrière est, pour ne pas déprimer et se tirer une balle aussi, dans ce système, qui est en fait quels espaces on arrive à définir et à co-créer aussi collectivement au sein d'une société capitaliste. Parce qu'en fait, tout le problème, il est là.
Après, c'est tout le fameux truc de du contrebandier versus la guerre, quoi, totale. Parce que c'est comment soit on essaye de faire rentrer des bons concepts en contrebandier, quoi, mais dans le système qui existe, ou versus effectivement à un certain moment tu faut arrêter totalement. Mais c'est intéressant le truc de collectif de gens auto-entrepreneurs. C'est intéressant parce que tu pourrais dire je sais pas, pour un pourcentage de ce que les gens gagnent, du coup, ça leur crée une sorte de mini syndicat ou ce que tu veux, mais qui, du coup, ils bosseraient tous dans un environnement bien et il y aurait genre un label. Et toi, en tant que client, c'est plus cool de faire travailler ces gens-là qui sont dans un meilleur truc. Et tu dis, nous, on n'utilise que des correspondants, que des partenaires labellisés, genre bio-mental, tu vois.
Ouais. Mais il y en a plein, hein, en fait. Après, ça dépend des secteurs d'activité. Je sais que pour tout ce qui est formation, accompagnement, conseil, coaching, il y a plein de structures comme ça, de collectifs où chaque individu est à son compte. Il y a des collectifs même où tu es à ton compte. Au départ, initialement, tu reverses un certain pourcentage et ensuite, tu es salarié. Ou en tout cas, tu as des droits comme un salarié. Bien, une salariée en fait, existait, de la structure. Et après, tu as le système des scopes aussi.
C'est quoi ça?
Mais c'est des
coopes. Ça, pour le coup, on dirait un truc de OSS 117 pour le coup. la scope.
Alors, je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme des sociétés coopératives. Et en tout cas, dans une scope, par exemple, en matière de gouvernance, eh bien, il n'y a pas une espèce de hiérarchie hyper formelle. Oui. En fait, dans les scopes. Ben, il me semble que, tu vois, à Toulouse, l'Utopia, à Tournefeuille, le cinéma, oui. C'est devenu une scope.
Ah oui, oui.
C'est quand tu as les salariés qui rachètent.
Exact. Exact, c'est vrai, c'est ça. À l'Utopia.
Ouais. Qui rachètent la structure et ensuite, toutes les décisions, elles sont collectives.
Ah ouais. Et tous les dividendes sont reversés à tous les employés, en fait.
Ça, c'est une alternative que je trouve très intéressante dans Bien un sûr. Système capitaliste.
Ah ouais, bah remettre un peu de communauté dans le, dans le truc. Mmh. Mais tu vois, en fait, c'est intéressant parce que c'est pas comme si moi j'avais mon doigt sur le pouls de ce qui se passait dans les entreprises, tu vois. Mais le fait que je me considérais comme justement quelqu'un de lambda à ce niveau-là, je suis pas au courant de ça. Et en fait, c'est dommage parce que moi-même, en tant que client de je sais pas quoi, je sais pas qui choisir. Et donc, forcément, j'irai beaucoup plus vers un nom évident qui, au contraire, bosse de la même manière qu'avant. Tu vois, alors que, tu vois, l'État pourrait se permettre de faire, un peu de la... Alors, soit directement de la pub, soit justement peut-être favorisé par des trucs fiscaux, j'en sais rien, ce genre de choses... pour qu'eux se fassent plus connaître, ou en tout cas se permettent un marketing qui pourrait rivaliser avec les grandes entreprises pour qu'au final, les clients puissent les trouver et faire leur choix. Quoi. C'est comme si tu me disais, genre, oui, il y a un label bio, sauf que tu ne les vois pas dans le supermarché.
En coaching, normalement, on ne donne pas de conseils à la personne qu'on coach. Tu vois, sinon, c'est du conseil. En coaching, on se dit, toutes les personnes ont les ressources en elles pour atteindre leur objectif. Tu vois, toutes les personnes ont... Voilà. Et le truc, c'est que t'accompagnes dans une posture basse. T'es pas en mode de posture haute et je vais te donner des conseils et je vais faire des plans d'action pour toi. Le conseil, c'est en gros, j'ai la solution pour toi, je vais pêcher ton poisson. Le coaching, c'est apprendre à l'autre à pêcher. Oui. Et je pense que le coaching, de la manière dont j'ai envie de l'envisager, et on est plein comme ça, qui est de se dire, OK, on apprend aux autres à pêcher pour que les autres puissent pêcher. Mais s'il n'y a pas de poisson, comment on fait? Ou si en fait, il y a des règles de ta pêche et que toi, tu peux... Tu as le droit, tu vois, de pêcher que... que des poissons non comestibles, tu fais comment? Il y a quand même quelque chose derrière systémique. Et du coup, je dirais que pour moi, ce qui m'intéresse aussi dans le coaching, c'est tous les outils vraiment, effectivement, de développement personnel. Pour apprendre à pêcher, mais aussi avec tous les apports des sciences humaines et sociales, des études de genre et des mouvements militants qui nous montrent que le système doit être changé aussi et dans le même temps. Parce que sinon, en fait, si tu es dans un système, si tu te développes, que tu deviens une personne avec une super estime de toi, que tu sais absolument ce que tu veux dans ta vie et que tu restes dans un système où en fait, tu es juste... t'es face à un mur et tu subis trop de violence, de discrimination, de différentes formes d'oppression, etc.
Ce sera retour à la case départ. Quoi. Tu aides les personnes, au final, à trouver elles-mêmes leurs propres ressources. C'est quoi la diff avec voir un psy, du coup?
Oui. Alors, généralement, déjà, de base, le psy, il a fait des études très longues en psychologie. Et puis, pour moi, le psy, c'est davantage une personne que tu vas voir quand dans ton quotidien, il y a une souffrance ou quelque chose qui dysfonctionne ou que tu réalises que tu es souvent dans des mêmes schémas de fonctionnement, de façon de penser, d'action, etc. Et que tu as envie de faire un travail sur toi en allant explorer ton passé. Et en regardant, depuis ta naissance, ce qu'il y a, ou même avant ta naissance, tout ce qui a dysfonctionné oui. dans ta famille. Et la psychanalyse sur ça, et du coup, c'est génial, j'adore, parce que tout est de la faute de nos parents.
et de leurs parents avant ça.
Et de leurs parents. Ouais. Et du sexe. voilà. et donc, on est vraiment sur l'exploration, en fait, du passé.
Oui.
Et sur des événements, voire des traumatismes qu'on a pu vivre. Mmh. Le coaching, on va pas aller fouiller. On n'a pas les compétences, on n'a pas fait les études pour ça. Le coaching, c'est le changement par l'action. Et donc, on est focalisé sur aujourd'hui et demain. Et donc, le coaching individuel, il y a aussi le coaching collectif, mais le coaching individuel, c'est des séances, en fait, qui peuvent aller, je ne sais pas, de trois quarts d'heure à une heure et demie, où on échange avec la personne coachée. On l'accompagne à identifier vraiment quel est l'objectif sur lequel elle veut travailler. Ça peut être un objectif professionnel ou un objectif plus personnel. Bon. Moi, en vrai, j'ai plutôt des entrées professionnelles, mais finalement, on travaille l'entièreté de la personne.
Ouais.
Et en fait, grâce à l'action, par le fait, en fait, de trouver des actions et de poser des nouvelles actions, eh bien, en fait, la personne, elle va changer. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent avec des statements hyper forts qui, en fait, se traduisent en étant des croyances limitantes dans la vie et qui les empêchent, en fait, d'atteindre leur objectif ou en tout cas d'être... beaucoup plus libre. Par exemple, un statement hyper fort, ça pourrait être dans la vie, de toute façon, toutes les généralités, dans la vie, par exemple, quand on a un tempérament, eh bien, on ne peut pas changer.
Ouais.
Et donc, ensuite, tous les problèmes que la personne va rencontrer dans sa vie, notamment dans sa vie professionnelle, qui seront liés et les manières dont elle va, les façons dont cette personne-là va réagir, qui sont liées à son tempérament. Par exemple, si c'est une personne qui a un tempérament colérique, eh bien, la personne va arriver en me disant « Bon, ben en fait, on m'a conseillé un coaching ou je viens pour ça, mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon tempérament, je suis comme ça, je ne peux pas changer là-dessus. » Donc, on va aller explorer d'autres choses, on va mettre d'autres actions en place. Et du coup, en fait, au bout de quelques séances, dans l'idéal, on va travailler sur cette croyance limitante-là et on va travailler sur les émotions, on va travailler sur l'estime de soi. Et en fait, on aborde... moi, les sujets que je préfère travailler, en tout cas en coaching, c'est vraiment les sujets d'estime de soi, d'amour de soi, image de soi, l'affirmation de soi, comme tu l'as dit tout à l'heure, les croyances... et tout ce qui est émotion, intelligence émotionnelle.
En vrai, c'est tous les problèmes que quelqu'un peut avoir. tu vois, parce que c'est con, hein, mais c'est vrai que personne ne nous a jamais appris à gérer nos émotions.
Mais à les identifier même.
à les identifier, oui, de ouf. Mais oui, carrément. C'est ouf, hein, parce que de toutes les années, de toutes les heures qu'on a passées sur le banc des écoles, etc., genre, il y a plein de gens pour dire Marignan 1515 et il y a zéro personne pour dire qu'est-ce qui se passe quand t'es stressé, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un t'a dit quelque chose.
Ouais, ma directrice, à la petite, elle dit tout le temps Marignan 1515. Elle l'a tout le temps, c'est fou.
C'est vrai?
Quelle horreur. Ben oui. C'est vraiment le seul truc qu'on retient. Oui, les émotions, franchement, c'est un truc... quand on a grandi, par exemple, dans une famille où il y avait de la violence, et donc l'émotion colère, très souvent, en grandissant, c'est intéressant aussi de se demander comment nos parents vivaient leurs émotions et géraient leurs émotions. Moi, tu vois, mon père a grandi dans une famille de culture méditerranéenne où toutes les émotions étaient interdites et il y en avait une qui était tolérée quand même, c'était la colère.
Oui, bien sûr.
Donc, moi, quand je l'observe, et encore en vieillissant, il change, donc c'est plutôt, plutôt chouette. Mais quand je l'observais, j'avais l'impression que même les moments joyeux...
C'était de la colère.
C'était de la colère. Et mes oncles, mes tantes, tout le monde là, puisqu'ils sont nombreux, c'est pareil. Mariage d'une de mes cousines, son père qui la jette et qui l'engueule. Juste trop plein d'émotions.
Oui, comme genre c'est le seul sillon que j'ai pour exprimer le truc, c'est la colère.
C'est la colère, donc tout est colère. Tout le temps.
Tout le monde est Donald Duck, en fait.
Et au lieu de te... Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, pareil, pour la peur. Tu vois,
oui.
Je sais pas combien de cousines ont annoncé à leurs parents qu'elles étaient enceintes. Et au lieu juste de dire, ah, ben, c'est trop bien, bravo, félicitations, et la peur arrive.
Ouais.
Et qui est une émotion hyper cool. Hein. Enfin, la peur, elle est... c'est une émotion qui assure notre survie. Hein. Et donc, du coup, c'est tout de suite... tout de suite... Ouais. Déversement de colère, ouais. Voilà. Mmh. Bon, bref. Et du coup, ouais, les émotions, moi, pour moi, c'est vraiment un des sujets...
De prédilection.
C'est un des sujets, pour moi, les plus importants dans la vie, quoi. Mais vraiment.
Ouais.
Arriver à les identifier, déjà, de base. Et puis, voilà, les émotions qui ont été complètement confisquées. Et il y a du genre aussi là-dedans. Parce que l'émotion colère... voilà, on l'encourage davantage chez les garçons que chez les filles. Et,
ouais.
Et la tristesse, à l'inverse.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Est-ce que parfois, justement, tu travailles de manière concomitante avec un psy? Genre, par exemple, il y a quelqu'un qui vient qui dit « Ah, j'aimerais faire ça. » Et tu te dis « Bon, ce serait quand même bien que vous fassiez une petite consulte pour voir. »
Oui, en fait, normalement, c'est un devoir qu'on a en tant que coach. Déjà, on demande à la personne comment on peut l'aider et qu'est-ce qu'elle attend de nous, qu'est-ce qu'elle attend de l'accompagnement. Donc déjà, c'est à nous d'identifier est-ce qu'on peut aider cette personne ou pas. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir pour faire le deuil du décès de son frère, je ne vais pas pouvoir l'accompagner là-dessus. Donc pour moi c'est un devoir de conseiller à une personne d'être accompagnée. Après, la personne, bien sûr, elle est libre et c'est elle qui fait le choix par un psy. Et puis sinon le truc hyper chouette, c'est d'avoir les deux, quoi. D'avoir psy et coach,
et comme ça on est couvert sur le passé, le présent,
ça c'est
le
top
futur.
Mais ça c'est effectivement les personnes qui ont suffisamment les moyens et suffisamment de temps. Ouais. Mais qui pour travailler sur soi, en tout cas, moi je trouve que la combinaison des deux, elle est top. Mais après, le psy, ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps, puisque en coaching, c'est 10 séances maximum.
Ouais, ok. Mais est-ce que je sais pas comment ça se passe pour genre Pôle emploi ou des trucs comme ça, est-ce que ça pourrait être envisagé le fait que tu sais, ils envoient des gens vers des coachs en fait, parfois? Quand il y a des gens qui sont en reconversion, quand il y a des... Tu vois ce que je veux dire? Puisque parfois, ils payent des formations. Mmh. Ils devraient peut-être payer des trucs avec des coachs, parce que c'est spécialement quand c'est personnalisé et tout. Je sais pas.
Je pense qu'il y a des réseaux de coachs qui font du coaching solidaire. Je m'y suis jamais penchée, donc je sais pas quelles sont les modalités. Je crois aussi, en fait, qu'il y a beaucoup de coachs qui sont aussi formateurs, formatrices. Y a des coachs qui font aussi des bilans de compétences. En tout cas, il y a des coachs qui ont des certaines certifications qui font que effectivement ils bossent avec Pôle emploi.
Ok.
Ouais.
Ouais, mais là tu me parles de bénévolat. Moi, je veux que tu sois payé par l'État. Tu vois ce que je Non, mais parce que moi, tout ce que je vois, c'est une faillite de l'État. Tu vois, c'est de tout, que ce soit de par l'éducation ou de par...
Non, la faillite de l'État, mais on le voit tout le temps. Là encore, le mouvement hyper chouette, le mouvement HF, une association qui milite pour l'égalité des genres dans les arts et la culture partout en France, c'est que des bénévoles. Je crois que c'était celle... Je ne sais pas si c'est en Île-de-France ou dans le Nord. Je crois que c'est Île-de-France. Elles ont fait un crowdfunding pour organiser des journées du matrimoine. Et en fait, oui, je vois un crowdfunding et je me dis, mais en fait, c'est vraiment une défaillance de l'État là-dessus.
C'est ouf. Ouais.
Donc oui, enfin, des faillances de l'État, ouais, il y en a à plein de niveaux, ça c'est certain. Mais en fait, je te rejoins sur le fait que quand même, le coaching, c'est un peu un accompagnement de luxe en vrai, tu oui. vois. C'est, on accompagne vraiment des personnes qui ont les moyens ou des personnes qui ont, se sont mis vraiment de l'argent de côté pour pouvoir faire un coaching. C'est un accompagnement très, voilà, c'est un accompagnement individualisé, personnel, sur mesure en fonction de l'objectif et des besoins de la personne. Et en fait, des publics plus précaires, des publics en situation d'insertion, ben, généralement,
elles n'en bénéficient pas. Ouais.
Elles n'en bénéficient pas. Elles ne peuvent pas. Et on leur propose davantage de choses qui sont souvent très collectives. Et là, pour moi, il y a la limite du collectif qui est... je me mets souvent à la place de femmes en situation de précarité où je me dis, OK, j'ai plein de modalités en fait, d'accompagnement dans les centres sociaux, etc., où je vais pouvoir faire des choses en collectif. Et tant mieux parce que le collectif, on sort de l'isolement, ça donne de la force, etc. Mmh. Il y a des modalités de sororité... d'adelphité qui se crée, etc. Mais quand est-ce que j'ai un moment rien que pour moi ?
À moi, oui,
et
oui.
moi, quand est-ce qu'on solo, reparle, ouais. en fait.
Oui, oui. Ben, c'est, oui, parce que en fait, c'est comme tout. C'est-à-dire que tu vas pas chez ton médecin à plusieurs, quoi.
Ouais.
Et le gars, il fait qui c'est qui éternue pardon, c'est... Il donne du paracétamol à tout le monde. Mm. Mais non, à un certain moment, il y a besoin de... qu'on saisisse l'individu, quoi.
Ouais, et je trouve que c'est encore malheureusement un peu trop un luxe d'avoir un... voilà, de pouvoir se payer un accompagnement individuel.
Yes. Comment tu vois, toi, se développer, là, ton exercice en tant que coach ? Même, ce serait quoi l'idéal ? L'argent n'est pas un problème ? Ton truc de
j'adore.
Coaching...
Déjà, ça commence bien.
Est-ce que toi, tu te dis, mon truc de coaching, c'est... Non, je le garde en mode... voilà, toute seule, juste avec des gens. Et du... Ou est-ce que toi, tu te dirais genre, ah ouais, je créerais bien un empire de coaching, tu vois, avec ma philosophie, ou je sais pas. C'est nos limites.
Ouais,
hein.
Ouais, ok,
tu peux tout faire.
Alors, moi, dans mon... J'ai plusieurs rêves, mais un de mes rêves, ça pourrait être, en fait, je le vois pas comme moi, seul, je construis un truc à mon image, pas du tout, mais... à l'image de certaines maisons des femmes, je rêverais en fait d'un centre, mais plutôt ouvert à toutes les personnes minorisées dans le champ social, en gros. Donc, ça serait un grand centre où dedans, on puisse trouver, du coup, des personnes qui t'accompagnent, peu importe ta classe sociale, ton environnement et où tu as né. Dans ta vie professionnelle, mais en tout cas j'aimerais bien être dans un pouvoir co-construire un grand collectif où la finalité ce soit d'accompagner des personnes pour plus d'empowerment, mais par notamment par le travail en fait et l'indépendance ouais. financière. Donc moi j'aimerais bien un grand centre comme ça. Je sais pas si le mot centre, c'est un peu ça s'appellerait pas un centre en tout cas. Le mot est moche. Donc non, ça.
C'est parce qu'en anglais ça fait center.
Center. Ouais, mais ça me fait penser à des community centers. Mais ouais. Ouais, presque des community centers, tu vois, avec ou dedans où on peut bénéficier d'un accompagnement où tu peux avoir. Des psys, des coachs, des formateurs, tu peux avoir de tout type en fait de profils de personnes.
Ouais, pour t'aider à te réaliser toi-même quoi.
Ouais, avec des modalités, ouais c'est ça, des modalités individuelles et collectives.
Ok.
Donc ça serait un truc, mais ça fait pas vraiment genre rêve. Tu vois, je trouve que ça, c'est assez réaliste en fait de créer un truc comme
ben,
ça.
Eh ben, écoute, on va crowdfunder immédiatement. Ce truc pour que tu puisses les créer.
Un Equality Empowerment Community Center.
Ben voilà, parfait.
Mais sinon, un rêve complètement beaucoup
fou.
Plus perché.
Ouais.
Si l'argent n'est pas un problème, eh bien, j'ai une immense maison à Cadaqués ou n'importe où je puisse avoir juste la vue sur la Méditerranée. Je vais à la plage à pied. Et je discute toute la journée avec plein de nouvelles personnes qui marchent sur la plage et qui viennent absolument du monde entier. Et voilà, on s'assoit et on discute et on rit. Et voilà.
Ça semble pas mal.
Ça, ce serait mon rêve complètement irréaliste.
Tu sais pas, très vite, tu peux devenir influenceuse et tout, et bim.
Je suis très mal partie pour ça.
Et ben du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, abonnez-vous à l'Instagram d'Alice, comme ça, on va réaliser son rêve.
Abonnez-vous à mon compte Instagram, surtout si vous cherchez un compte avec une story publiée par semaine, zéro post.
Ouais, mais la story, elle est vraiment magnifique, quoi. Elle a été curated. Et en tout cas, merci beaucoup, Alice. De toute façon, dans la description, vous allez pouvoir voir encore une fois l'Instagram d'Alice, mais aussi ton site web pour celles et ceux qui sont à Toulouse, quoi, qui voudraient te contacter pour améliorer leur vie.
C'est beau, Areski Sugar. Merci.
Bisous. Baby, can't you see I'm calling? Should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Do I hang on down? Losing my head, spinning round and round.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.